France Inter.
Aujourd'hui, Élisée Reclus, le géographe anarchiste, raconté par
Roméo Bondon, doctorant en géographie.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bien avant que l'on parle de crise écologique ou de responsabilité climatique, certains avaient déjà compris que la Terre n'était pas un simple décor, qu'elle réagissait, qu'elle gardait la mémoire des gestes humains et que cette relation engageait une éthique. Au XIXe siècle, au cœur des bouleversements politiques et scientifiques, le géographe Élisée Reclus élabore une pensée à part, difficile à classer et profondément originale. Voyageur infatigable, exilé politique à plusieurs reprises, Reclus observe le monde en marchant et en traversant les continents. Il refuse la science de cabinet pour comprendre la Terre, il faut la voir et l'éprouver. Sa géographie est sensible, presque charnelle, nourrie par les paysages autant que par les sociétés qui les habitent. Elle mêle description précise, attention aux sensations et donc une réflexion critique sur le progrès et les inégalités. Mais Reclus n'est pas seulement un savant, il est aussi un militant proche des révolutionnaires de son temps, engagé dans la Commune de Paris, anarchiste convaincu. Son anarchisme n'est ni un goût du désordre ni une posture romantique. C'est une méfiance envers toutes les formes de domination et une confiance obstinée dans l'entraide. Il étend cette solidarité au-delà des humains, accordant une place inédite aux animaux et aux vivants, affirmant que l'intérêt des sociétés humaines se confond avec celui de la nature elle-même. Étudier Élisée Reclus aujourd'hui, ce n'est pas se tourner vers le passé, c'est retrouver au contraire une pensée capable de relier l'écologie et la justice sociale, la liberté, la responsabilité terrestre, à un moment où ces liens n'ont jamais été aussi nécessaires. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Ce n'est jamais sans émotion que je contemple, dans le salon de l'Université Nouvelle de Bruxelles, le grand tableau représentant Élisée Reclus. Quelle noblesse dans cette figure encadrée par une longue chevelure, dans ce sourire un peu triste, noyé dans une barbe de patriarche, dans ses yeux qui illuminent encore la candeur émerveillée de la jeunesse, dans ce front large et vaste, tout rempli des plus grandes richesses du savoir, de la pensée et d'une idéale espérance.
Voilà le portrait dressé par le penseur français André Lorulot. C'était en 1955. Roméo Bondon, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Merci d'être avec nous. Vous qui êtes l'auteur d'un livre, Élisée Reclus et la solidarité terrestre. C'est aux éditions du Passager clandestin. Avant de commencer à découvrir le visage et les idées d'Élisée Reclus, à quel moment son personnage est-il entré dans votre propre vie de géographe?
C'était, je devais avoir 18 ou 19 ans, simplement en me promenant dans une librairie. J'ai été chercher un livre et je suis tombé sur une biographie d'Élisée Reclus et qui m'a interpellé à ce moment-là. C'était Élisée Reclus, anarchiste, écologiste, géographe. Et j'allais étudier moi-même la géographie à ce moment-là. J'étais intéressé par les idées anarchistes et aussi, c'était la période, je crois, on était en 2015, il y avait des manifestations interdites à Paris. Au moment de la COP21, et donc ça me semblait intéressant de me plonger dans cette histoire et dans cette vie.
Ouais, c'est une figure qui a été très inspirante pour vous, qui a vraiment une place à part?
Une place à part, sans doute maintenant, du fait d'avoir travaillé dessus déjà, parce qu'on se plonge dans des textes, dans une correspondance de façon assez précise tout de même, et aussi il m'a ouvert sur tout ce 19e siècle, parce qu'il est reclus 1830-1905, sa vie s'étale.
Il traverse le siècle, son siècle.
Oui, tout à fait. En 75 ans, c'est ça qui est assez marquant, quoi. Il y a à la fois une monarchie, un empire, deux républiques, des insurrections, et puis des révolutions scientifiques, enfin bref.
Et un personnage qui voyage beaucoup.
Effectivement. Soit de son propre gré, et soit en fonction de la nature des événements politiques de son temps.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'écrits, justement, à disposition aujourd'hui, beaucoup d'archives?
Beaucoup d'archives, oui. Oui, tout à fait. Il y a des milliers et des milliers de pages, parce que lui-même a énormément écrit pendant toute sa vie. Et ce, à partir de 1850, à peu près, ses premiers articles, et surtout des sortes de sommes géographiques immenses. La Terre, en 1868, puis après la Nouvelle Géographie Universelle, qui est une sorte de description de toutes les sociétés humaines, finalement, ouais. jusqu'à L'Homme et la Terre, son dernier grand œuvre, qui est là plutôt une sorte de géographie historique.
Donc un travail d'ampleur. Avant d'entrer dans les idées, justement, autour d'Élisée Reclus, Roméo Bondon, j'aimerais qu'on plante un petit peu le décor, justement, de ce 19e siècle, parce que la géographie n'est pas encore la discipline universitaire solide qu'on lui connaît aujourd'hui. Ça change quelque chose à la compréhension d'Élisée Reclus, de bien comprendre ça, justement ?
Oui, ça change quelque chose, parce que lui-même va apprendre la géographie auprès d'un géographe connu à l'époque, Karl Ritter en Allemagne, à l'université de Berlin. Mais à ce moment-là, la géographie de Reclus, c'est surtout du voyage, c'est surtout des découvertes. Et la discipline en elle-même n'est pas du tout installée. Il y a une société de géographie à laquelle Élisée Reclus va participer par la suite, mais elle rassemble surtout des notables, des voyageurs, des explorateurs, des personnes qui sont en faveur de la colonisation, qui à ce moment-là a déjà débuté depuis plusieurs dizaines d'années, mais est très forte en France. Et par ailleurs, la discipline elle-même va s'installer surtout à l'université à la fin du 19e siècle. Donc Reclus, il est, à l'interface entre les géographes de cabinet, on les appelait comme tels, qui étaient une sorte de compilateurs encyclopédistes, et les géographes de plein vent, de plein air. Et voilà, lui se situe à cette intersection-là.
Donc c'est le géographe indépendant, hein, finalement, Élisée Reclus, avec une grande liberté de ton aussi.
Oui, tout à fait. Même si celle-ci était un petit peu contrainte dans son cadre éditorial, il était édité par plusieurs éditeurs, mais surtout Hachette. Et il pouvait pas s'exprimer l'ensemble de ses idées, notamment ses idées anarchistes qui se sont affirmées au fil du temps. Ça, c'est plutôt dans un cadre de brochures, de choses comme ça, qui seront publiées à l'époque.
Dans quel cadre familial est-ce qu'il va grandir ? Parce que c'est intéressant aussi de voir qui était son environnement.
Élisée Reclus naît en 1830 dans le sud-ouest de la France, à Sainte-Foy-la-Grande, dans une famille protestante, une famille nombreuse. Il y a une dizaine de frères et sœurs. Et son père est un pasteur méthodiste, sa mère est une institutrice. Il y a quelque chose autour de l'instruction qui est très forte, mais il y a aussi une éducation religieuse elle-même très forte. Élisée Reclus, comme son frère Élie, son frère aîné, se destinent tous deux d'abord à être pasteurs eux-mêmes, à se mettre finalement dans les pas du père, et puis petit à petit, ils vont évoluer plutôt vers l'athéisme, parce que c'est des étudiants un petit peu tumultueux. Élisée Reclus fait exclure de l'université théologique de Montauban, par exemple. Mais par ailleurs, cette éducation protestante va le marquer durablement, notamment des questions autour de la libre conscience, qui est quelque chose qui restera très fort pour Élisée Reclus. Et ce mot-là de conscience, cette souveraineté de l'individu va rester tout au long de sa vie et va plutôt être accolée à une idée de liberté.
Il y a un coup d'État en décembre 1851, donc il a 21 ans, ce qui provoque d'ailleurs un premier exil. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter justement un moment là-dessus pour comprendre en quoi cet exil, précisément, n'est pas seulement une parenthèse biographique dans son parcours, mais vraiment un événement fondateur aussi, qui a transformé sa façon de connaître, d'appréhender le monde?
Oui, alors c'est effectivement fondateur, c'est un événement politique qui le met en mouvement, mais lui-même s'est déjà mis au mouvement auparavant, au cours de sa jeune vie. Il part en exil du coup avec son frère Élie, d'abord en Angleterre, à Londres, où il y a toute une société de proscrits qui existe, comme ailleurs dans d'autres capitales, Bruxelles, etc. Ensuite, il va passer quelques temps en Irlande et surtout traverser l'océan Atlantique pour aller jusqu'en Louisiane, où il va passer plusieurs années, où il va faire différents emplois. Il va être aussi précepteur dans une plantation, qui va être une contradiction avec ses convictions à ce moment-là. Il va être un fin observateur de la société esclavagiste américaine, mais il va y participer d'une certaine façon très très indirecte, en étant le précepteur d'une fille de cette plantation-là. Et puis, à un moment, c'est trop, il l'écrit à sa mère et il ne peut plus supporter cet état-là. Et il a surtout envie de voyager et notamment de se mettre un peu dans les pas d'un géographe fameux de l'époque, Alexander Van Humboldt, qui va le mener plutôt en Amérique du Sud, jusqu'en Nouvelle-Grenade, l'actuelle Colombie.
Il va revenir en France quand, alors? Ça va durer combien de temps, ce premier exil?
Alors, il va revenir en 1857, donc ça va durer six ans
d'exil. Et en revenant en France, qu'est-ce qui se passe alors pour lui? Il va rester très indépendant ou il va quand même fréquenter un petit peu le gratin des sociétés savantes françaises?
C'est un peu un mélange des deux. Il est très indépendant dans le sens où il n'appartient pas à une école précise. Mais ensuite, il va quand même intégrer, je le disais tout à l'heure, la Société de Géographie de Paris. Il va intégrer aussi plutôt la maison d'édition Hachette, au sein de laquelle il va être rédacteur pour des guides touristiques, les guides Joanne. Mais si auparavant son voyage l'avait déjà fait géographe d'une certaine façon, plutôt géographe par les pieds en parcourant le monde, eh bien là il va revenir avec un récit de voyage, il va revenir aussi avec une somme d'articles, c'est l'un des connaisseurs des États-Unis de son temps le plus fameux, une somme d'articles qu'il va publier dans des revues, la revue des Deux Mondes, des choses comme ça, et déjà aussi des écrits plus sur la géographie.
Ouais. Est-ce que vous aussi vous êtes un géographe par les pieds, Roméo Bondon? J'aime bien l'expression. Est-ce qu'elle vous caractérise aussi ou pas?
Oh bah, moins que lui, j'ai pas parcouru le monde de cette façon, mais j'aime marcher.
Mais, ça, mais quand sûr. Même vous marchez beaucoup. Ce qui frappe évidemment dans son portrait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en prélude, c'est le sensible, parce qu'il fait vraiment entrer les sensations dans sa science, hein, la géographie, l'air, la respiration, l'atmosphère, le corps. Et pour en discuter, on va écouter la lecture d'un extrait d'un texte de Reclus en 1869 qui s'appelle « Histoire d'un ruisseau » lu par Laurent Blampin pour France Culture l'année dernière.
L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l'histoire de l'infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile. Elles ont été neige sur la froide montagne, molécules de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots. Le soleil, dans sa course journalière, les a fait resplendir des reflets les plus éclatants. La foudre en a fait de l'hydrogène et de l'oxygène, puis d'un nouveau choc a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. Faibles comme nous le sommes, nous tâchons de mesurer la nature à notre taille. Chacun de ces phénomènes se résume pour nous en un petit nombre d'impressions que nous avons ressenties.
1869, histoire d'un ruisseau. Il y a eu également histoire d'une montagne, parce qu'on verra l'importance aussi des montagnes dans la vie d'Élisée Reclus, Roméo Bondon. Cet aspect sensible, on lui a presque reproché parfois de mélanger en tout cas la poésie et la science, notamment dans ce type d'ouvrage. Pour lui, c'était pas du tout dissonant, hein, bien au contraire.
Non, ça l'était pas, parce que c'est quelque chose qui l'a porté aussi vers une œuvre de connaissance, c'est-à-dire les sensations, se mettre dans un environnement, se mettre dans un paysage, ressentir effectivement, comme vous l'avez dit, voir beaucoup. C'est Isabelle Louviot qui a écrit sur la l'acuité d'Élisée Reclus, quelque chose de très important. Et surtout, il affirme qu'il n'est pas possible de bien décrire, de bien exprimer ce qu'on ressent dans un environnement quelconque, mais c'est ce qu'il va essayer de faire durant toute sa vie, et notamment en cherchant des façons de faire, des manières des récits, disons, pour faire ça, et notamment donc dans Histoire d'une montagne et Histoire d'un ruisseau, qui sont un petit peu à part dans sa grande œuvre géographique.
Il y a une volonté de sa part justement de rendre les sciences plus vivantes aussi, plus familières, pour aussi toucher le public différemment. Il y a cette conscience-là chez lui ?
Oui, il y a celle-ci. Enfin, ces deux textes-là notamment, parce qu'ils sont à destination d'un public plus jeune, mais pas nécessairement, mais qui n'est pas... qui n'est pas familier non plus de toutes les sciences, qui à l'époque, il y a un grand nombre de révolutions scientifiques, public qui n'est pas nécessairement naturaliste, eh bien lui, par cette plume, par cette écriture qui peut être aujourd'hui sembler parfois un petit peu ampoulée, ou en tout cas assez riche, lyrique, etc., il va essayer de donner à voir, du coup, de donner à sentir ce que lui-même ressent lorsqu'il se trouve dans ces environnements.
À la même époque, on a Darwin hein, aussi en Angleterre, qui a déjà voyagé avec le Beagle, qui a écrit aussi de l'origine des espèces. Est-ce qu'ils sont amenés à se croiser d'ailleurs ? Est-ce qu'ils se connaissent ou pas ?
Ils se connaissent de nom, se croiser, je suis pas sûr, il faudra vérifier. Mais c'est certain qu'ils se connaissent parce qu'une anecdote assez connue dit que Darwin aurait signé une pétition au moment où Élisée Reclus est enfermée pendant la Commune de Paris, une pétition de savants du monde entier pour le libérer. Et Élisée Reclus est l'un des premiers savants français aussi qui... eh bien, va découvrir l'œuvre de Darwin, qui est contemporaine finalement de la sienne,
absolument,
de quelques années, et ça va le marquer durablement, comme ça a marqué d'autres géographes anarchistes tels que Pierre Kropotkine par la suite.
Roméo Bondon, et on en reparlera dans un instant, à quel moment apparaît chez justement Élisée Reclus cette conscience terrestre, c'est-à-dire cette idée finalement que les actions humaines transforment la planète et qu'elles impliquent donc des responsabilités, ce qui est très moderne pour l'époque. C'est une des raisons pour lesquelles on s'y intéresse encore aujourd'hui à Élisée Reclus. Chez lui, ça apparaît comment ?
Comment ça apparaît ? Je ne saurais pas dire tout à fait. Il y a cette vision de la nature très forte, etc. Ça, c'est présent depuis très très jeune, quoi. Il y a plein d'anecdotes qu'il raconte, mais sinon, il y a aussi... il va être un lecteur assidu des sciences de son temps, et notamment d'un auteur américain, George Perkins March, qui, au même moment, donc c'est un diplomate, lui va écrire et va impulser le mouvement préservationniste, un mouvement de la conservation de la nature aux États-Unis. Mmh. Et Reclus va lire, Reclus va également faire des comptes rendus de ses textes, dans lesquels qui sont publiés dans la Revue des Deux Mondes, et dans lesquels il va parler des dégradations possibles, des dégradations du fait de l'action de l'homme, notamment sur des forêts, sur des choses comme ça, qui, c'est pas non plus tout à fait, comment dire, original dans son temps. Il y a plusieurs personnes avec lui qui vont discuter de ces choses-là, et des historiens de l'environnement comme Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher l'ont très bien montré dans des ouvrages. Ouais. Le climat, la météo, les dégradations humaines, mais aussi les améliorations de l'environnement sont des choses beaucoup discutées à cette époque.
Déjà à cette époque, effectivement, on est au 19e. On va parler de l'engagement, de l'anarchisme, du refus des dominations d'Élisée Reclus. Et puis Roméo Bondon, vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de La Terre au Carré sur franceinter.fr, sur nos réseaux sociaux. Dites-nous, amis auditeurs et auditrices, si cette figure de Élisée Reclus vous parle, vous touche. On en parle dans quelques minutes ensemble.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Toutes les individualités géographiques de la Terre, en leur variété infinie de nature, de phénomènes et d'aspects, portent les marques du travail des forces toujours à l'œuvre pour les modifier. À son tour, chacune de ces formes terrestres est devenue, dès son apparition et continue d'être, dans tout le cours de son existence, la cause secondaire des changements qui se produisent dans la vie des êtres nés de la Terre. Vue de haut, dans ses rapports avec l'homme, la géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace, de même que l'histoire est la géographie dans le temps. Ne peut-on pas dire également que l'homme est la nature prenant conscience d'elle-même ?
Extrait d'une série de France Culture, Avoir raison avec Élisée Reclus, c'était la voix de Nicolas Berger. On parle donc de ce géographe anarchiste cet après-midi dans La Terre au Carré avec vous, Roméo Bondon, qui publiait Élisée Reclus et la solidarité terrestre, c'est aux passagers clandestins. Et d'ailleurs, je signale que vous serez ce soir à 19h30 à Montreuil pour présenter cet ouvrage à la librairie Libertalia. Donc pour le public de la région Île-de-France, on peut vous retrouver tout à l'heure. On présente souvent Élisée Reclus comme un précurseur de l'écologie politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec cette expression, ou est-ce qu'il faut la manier avec un petit peu de prudence le concernant ?
Je serais d'accord, d'autant que c'est le titre de la collection dans laquelle j'ai publié ce livre. Mais au-delà de considérations éditoriales, je suis d'accord d'une certaine manière si on se met d'accord aussi sur les termes employés. Écologie, à ce moment-là, c'est un terme qui n'est pas du tout manié par Reclus, c'est un terme très neuf et qui ne veut pas non plus dire ce qu'on entend actuellement. Une sorte de partage entre écologie scientifique, écologie politique. Et Reclus est contemporain de la naissance de l'écologie scientifique. Le terme lui-même vient d'Ernest Haeckel, un naturaliste allemand dans les années 1860, par là. Élisée Reclus lui est beaucoup plus familier d'une géographie sociale, d'une géographie politique dans laquelle il va s'attacher à décrire tous les événements, toutes les relations qu'entretiennent les sociétés humaines avec leur environnement. Donc en cela, il y a une sorte de géographie environnementale, comme on dirait un peu aujourd'hui. Et écologie politique, pourquoi pas, mais c'est malgré tout, disons que son regard politique qui va évoluer au cours du temps et quand même très centré sur les combats de son époque, des combats très humains. Et ensuite, il va décrire beaucoup les effets de l'industrialisation sur l'environnement, les effets de l'urbanisation, des choses comme ça.
Mais les deux choses ne sont pas séparées, en fait.
Elles ne le sont pas, non. Et ça, on s'en aperçoit dans tout un tas de textes, notamment dans La Nouvelle Géographie Universelle, où il va décrire aussi bien, je prends l'exemple, des grandes réserves qui commencent à être créées en Afrique australe, par exemple, pour protéger certaines espèces animales. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose à la fin du 19e siècle qui commence à poindre et au début du 20e. Et Élisée Reclus est assez critique par rapport à ça. À la fois, on protège, il y a une sorte de production spatiale d'un nouvel espace, la réserve, pour protéger certains animaux. Mais qui fait ça ? Eh bien, ce sont des sociétés de chasseurs, aristocrates, etc., qui eux-mêmes, précédemment, ont abattu en grand nombre ces animaux-là et qui sont également des colonisateurs en Afrique du Sud, etc.
Donc, sur les dominations, ça, c'était au cœur aussi de son engagement, avec finalement sa géographie qui est un outil critique chez lui. C'est une géographie très politique qui sert précisément à dénoncer aussi toutes ces dominations, qu'elles soient politiques, sociales ou économiques. économique, ça c'est au cœur de sa réflexion.
Oui, tout à fait. Même si, enfin, il faut toujours garder à l'esprit, tout de suite quand on dit géographie politique, on a l'impression, enfin, c'est quelque chose qu'on va souvent opposer à des scientifiques qui ont des engagements politiques par ailleurs.
C'est toujours politique les géographies ?
C'est toujours politique et c'est surtout politique dans un sens qui accompagne des mouvements de colonisation, qui accompagne le pouvoir, qui délimite des frontières. Donc, finalement, se référer à Élisée Reclus, c'est aussi se référer à une autre géographie que celle-là, à une autre géographie que celle du pouvoir. Il y a un texte fameux que vous connaissez sans doute d'Yves Lacoste, « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Eh bien, Élisée Reclus essaye de faire une géographie qui sert d'abord, non pas forcément à faire la paix, mais à aller vers la solidarité. Une solidarité entre les sociétés humaines, une solidarité aussi avec l'environnement dans lequel on habite.
Il y a des figures que vous avez déjà un petit peu citées depuis le début de l'émission et qui constituent aussi ce milieu militant très international dans lequel s'inscrit Élisée Reclus, remet au bon nom.
Oui, très international, c'est déjà le cas. En fait, c'est aussi du fait des mouvements politiques de l'époque. Élisée Reclus lui-même a été exilé plusieurs fois, on en a parlé tout à l'heure, mais il n'est pas seul dans ce cas-là. Et surtout, il y a des circulations très fortes, notamment qui arrivent à Paris pendant le Second Empire, quand Élisée Reclus revient dans la capitale. Eh bien, il y a des révolutionnaires russes, allemands, qui vont passer à son domicile, où il réside avec son frère, avec leurs compagnes respectives, etc. Et par la suite, dans ses exils suivants, Élisée Reclus va rencontrer aussi une somme de personnages de l'époque assez phénoménales, notamment en Suisse, après la Commune de Paris, où son grand œuvre de l'époque, qui est la Nouvelle Géographie Universelle, une sorte d'un tome par an qui va décrire une région du monde, n'est pas son œuvre à lui seul. Il y a une sorte d'entreprise géographique qui va enrôler international avec, par exemple, Pierre Kropotkine, effectivement, Léon Metchnikov, plus sur la Russie, des contributeurs de tout un tas de pays, et qui, en fait, se relient aussi à l'histoire politique de l'époque, car une partie de ces contributeurs sont des personnes qui ont été aussi investis dans la Commune de Paris, ont été exilés, et qui viennent de différentes nations, effectivement.
Donc la Commune de Paris, c'est vraiment un moment central aussi dans la trajectoire d'Élisée Reclus. Son anarchisme, d'ailleurs, va beaucoup bouger après la Commune.
Oui, c'est un moment central. Déjà, c'est un peu le milieu de sa vie, d'une certaine façon, donc c'est assez intéressant aussi pour cette raison-là. C'est un mouvement central parce qu'il y a une répression qu'on connaît, quoi, très forte, des dizaines de milliers de morts dans les rues de Paris, donc c'est quelque chose quand même d'assez inconcevable aujourd'hui. Et juste avant, Élisée Reclus a plutôt évolué d'une forme de républicanisme social. Il accompagne le début du mouvement ouvrier international. Il fait partie de l'Association internationale des travailleurs, il fréquente Marx, Engels, etc. Donc il connaît tout ça. Il est aussi déjà un familier de Bakounine, donc la figure de l'anarchisme à ce moment-là. Mais c'est surtout après la Commune, après cet énorme, à la fois le grand espoir que suscite cet événement-là pour lui, à un moment où Paris vient d'essuyer un siège de la Prusse, à un moment où la Troisième République vient d'élire surtout des députés monarchistes, eh bien Élisée Reclus voit dans la Commune de Paris une sorte d'événement fondamental, quoi, aussi fondamental que la Révolution française de 1789, et qui va le marquer durablement. Et cette forte répression, donc, va aussi créer une méfiance vis-à-vis d'un pouvoir installé, fût-il républicain, fût-il a priori démocrate. C'est ce même pouvoir-là qui va réprimer la Commune.
Ça va radicaliser son anarchisme, justement ?
Ça va vraiment l'instaurer, quoi. C'est à partir de ce moment-là qu'on le date, et qui va se théoriser. Juste avant, il écrit assez peu, finalement, sur les idées politiques de son temps, même si ça traverse, effectivement, toute son œuvre géographique également. C'est à partir de ce moment-là, surtout au contact des autres exilés, notamment en Suisse, où il réside pendant plusieurs dizaines d'années par la suite, au contact donc de Pierre Kropotkine, que je mentionnais précédemment, et de toute une société, finalement. Ils vont fonder des journaux, et ils participent d'un petit groupe qui s'appelle la Fédération Jurassienne, qui va formaliser les principes du communisme anarchiste, c'est ça c'est ce courant-là auquel se rattachent Élisée Reclus.
Roméo Bondon, on va écouter le neurobiologiste Jean-Didier Vincent qui nous parle justement de l'anarchisme d'Élisée Reclus.
Il a une conception plus ouverte que les écologistes d'aujourd'hui. Il reconnaît que la nature n'est pas toujours bienveillante et qu'elle peut provoquer bien des désordres. Alors l'homme est le complément de la nature et n'est pas son esclave parce qu'il a réussi à modifier la nature à son profit. Évidemment, il est fondamentalement, Élisée Reclus, un anarchiste libertaire, c'est-à-dire qu'il est totalement opposé au communisme qui recherche le pouvoir. Et il est pour l'entraide, la solidarité universelle. Voilà, c'est les bases de la doctrine anarchiste. C'est l'homme que j'aurais aimé être, c'est un homme vertueux qui est tout amour et toute charité. Elle est chrétienne d'origine, mais en réalité c'est l'amour des anarchistes, des bons anarchistes.
Jean-Didier Vincent, en 2010, je vous voyais réagir au mot Bondron lorsqu'il disait qu'il était très éloigné du communisme.
Oui, ça me semble pas tout à fait juste, dans le sens où le communisme, c'est pas seulement... on a toujours cette vision totalement déformée par l'histoire récente, quoi. C'est pas communisme bolchevique, soviétique, etc. Le communisme, c'est aussi ce qui se fait ici et maintenant, c'est des principes d'entraide, etc. Et ça, pour le coup, Élisée Reclus a été... Enfin, le dit lui-même. Je sais, j'ai plus la citation exacte, mais il me semble que son anarchiste ne peut pas aller sans une forme de communisme. C'est quelque chose qu'il va raconter aussi.
Oui.
Et ce n'est pas... disons que sa vision de l'anarchisme, se dégage du collectivisme, qui va être plutôt la position de l'international à ce moment-là, Marx, etc. La sienne va être un petit peu différente. Effectivement, le principe de liberté est quelque chose de fondamental, mais le principe d'égalité l'est également.
Et de la coopération, hein, aussi.
Et de la coopération, et ça, ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait se rejoindre d'une certaine façon son travail scientifique et son travail plutôt de propagandiste.
Ouais.
Et de la même façon que, du coup, son ami, camarade Pierre Kropotkine a énormément travaillé sur l'entraide comme un moteur de l'évolution, eh bien, Élisée Reclus partage ces mêmes idées.
Son implication dans la cause féministe, également, est assez peu connue. Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi de sa pensée ?
Assez peu connu parce que, disons que c'était un compagnon de route. Ce que ça met en lumière, c'est plutôt les femmes qui, à ce moment-là, commençaient à avoir des sociétés communes, et notamment sa belle-sœur Noémie Reclus, qui, avec Louise Michel, André Léo, juste avant la Commune de Paris, eh bien, profite d'une libéralisation des lois sous Napoléon III pour faire des sortes de meetings, des journaux, etc.
Il y a la Société de revendication des droits des femmes,
c'est
aussi.
Ça.
Hein.
C'est ça, qui naît quasiment, je crois, dans l'appartement dans lequel réside Élisée Reclus en 1868. Ouais. Donc où il accompagne en fait ce mouvement-là. Et dans son dernier ouvrage, L'Homme et la Terre, il va avoir de nombreuses pages aussi sur la cause des femmes, qui pour lui n'est pas du tout une cause mineure. C'est une cause fondamentale au même titre que celle qu'il défend dans le reste de ses textes.
On parlera également de végétarisme dans un instant, de naturisme. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de choses en tout cas autour de la figure d'Élisée Reclus. Ça fait l'objet de ce livre autour de la solidarité terrestre, c'est le titre aux passagers clandestins de ce livre que vous signez. Roméo Bondron, vous êtes notre invité aujourd'hui dans La Terre au Carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Allons au lac des batailles. Ramer, nager, nu comme des vers. L'homme devrait autant que possible vivre nu. Absorber sa santé par tous les pores. Accoutumer ses yeux à la beauté des formes. Je tiens à reconquérir l'équilibre de ma jeunesse. Équilibre que nous font perdre bottes, cravates, bretelles et chapeaux. Ah, cette sensation rafraîchissante du vent, conjuguée à l'eau, n'a rien d'infernal. Cherchons une barque.
Toujours extrait des archives de France Culture en 1997, au sujet d'Élisée Reclus, une lecture de Jean-Marie Gallet autour du naturisme, car on parle aussi de cela dans cet ouvrage que vous signez, Élisée Reclus, La solidarité terrestre, Roméo Bondron, vous qui êtes notre invité, parce que la nudité, c'est pas du tout un tabou, c'est ce que vous expliquez pour Élisée Reclus, c'est même devenu un véritable objet de réflexion, hein.
Oui, tout à fait. Il dit à ce propos-là que le temps est venu de ne plus reculer devant aucune discussion. Donc,
ouais.
Il pose un petit peu ces termes comme si c'était effectivement un sujet totalement absent. Et effectivement, on peut s'en rendre compte à l'époque. Mais il va articuler cette question de la nudité des vêtements avec une réflexion autour du progrès. Cette réflexion s'instaure et dans un chapitre qui est dédié au progrès à ce moment-là. Et on le voit aussi dans le passage qui a été lu précédemment. Finalement, ça montre aussi son rapport avec la civilisation, avec une sorte aussi d'image un peu idéalisée, une sorte d'âge d'or dans lequel on aurait finalement été débarrassé de nos accoutrements et du coup beaucoup plus poreux au monde. Et ça, c'est aussi à mettre en lien avec ce qu'on disait précédemment sur la géographie sensible d'Élisée Reclus, mais qui est aussi une géographie sensuelle, d'une certaine façon, dans la façon dont lui-même se rapporte, se baigne, gravit des montagnes, etc.
C'est le rapport aux éléments, hein, évidemment, qui sont là autour de lui. Et vous écrivez aussi qu'il attribue au naturisme des vertus vertus égalitaristes.
Oui, tout à fait.
Il y a ça aussi.
De façon à se défaire de ses vêtements, ce serait aussi se défaire d'une certaine manière de marqueur d'une classe, même si on aurait pu effectivement lui opposer le fait que en se débarrassant de ses vêtements, on se débarrasse évidemment pas de tout. Ces richesses extérieures, eh bien, ne sont qu'un petit aspect des richesses réelles qui sont inégalement partagées.
À la fin de sa vie, donc, il y a un courant même qui s'est constitué, c'est ça ? Vous citez des revues, des lieux de rencontre autour du naturisme ?
Oui, tout à fait, des revues et qui sont assez proches du milieu, pour certaines, assez proches du milieu anarchiste. Il y a un courant qu'on appelle anarchisme individualiste, qui naît plutôt au tout début du XXe siècle, qui essaye de mettre, qui sont des sortes de mouvements préfiguratifs, c'est-à-dire qui s'essayent de mettre en œuvre, ici, maintenant, dans la société inégalitaire dans laquelle on se trouve, tout un tas de principes qui, eux, leur semblent ceux qui devraient advenir à l'avenir, et donc notamment eh bien, des principes autour du naturisme. Ils organisent beaucoup d'excursions, il y a un rapport à la nature très fort, et il y a aussi voilà, tout un tas de revues plutôt dans un cadre hygiéniste, et il y a une très belle exposition qui était au MUCEM il y a un an, je crois, sur tout ça, qui montre aussi, disons, l'ambivalence de ces courants-là.
Il y a aussi ces textes sur le végétarisme et la grande famille du vivant qui sont particulièrement frappants aussi dans son œuvre et qui sont très en avance aussi là, sur leur temps quand même.
Tout à fait. Ils sont très en avance, mais après, il y aurait comment dire, ça serait inexact de toujours pointer une figure, donc là on en parle, donc évidemment qu'on le met en avant, qui serait une sorte de figure exceptionnelle, originale, seule finalement avec ces idées-là. Alors, Élisée Reclus, ce qui est intéressant, c'est effectivement la façon dont il va rattacher la cause animale à ses idéaux socialistes et la manière dont il va articuler les deux. Mais à ce moment-là, il y a d'autres personnes qui font de même, il y a une sorte de petit courant, en tout cas.
Il y a Darwin quand même, sur le fait qu'il n'y ait pas d'hierarchie au sein du vivant, il y a quand même Charles Darwin
effectivement,
déjà.
Hein. Effectivement, mais ce n'est pas forcément rattaché, comme le fait Élisée Reclus, à ce qu'il appelle son sentiment de solidarité socialiste, avec une défense, un refus aussi, un refus de forme d'exploitation des animaux. Il a des pages très fortes sur la description des abattoirs industriels de Chicago, par exemple, et il y a des pages aussi très fortes dans un texte publié en 1901 qui s'appelle sur le végétarisme. Il va écrire sur ce sujet, il est végétarien depuis des dizaines d'années, mais il écrit sur ce sujet que à la fin de sa vie, et ce texte commence sur une description là aussi très, très visuelle finalement de l'abattage d'un cochon dans son enfance, et à partir de là il va décliner une sorte de grande finalement de grandes discussions sur mais c'est quoi finalement nos rapports aux animaux, le rapport d'exploitation qui se joue, en parlant de guerre, enfin bref, il y a énormément de sujets contenus dans ce petit texte.
Vous citez ce texte 1901, on est 4 ans avant sa mort, puisqu'il disparaît en 1905, et alors il meurt extrêmement célèbre, dans une France qui le célèbre comme on a célébré quasiment Victor Hugo.
France qui le célèbre, alors une certaine France, peut-être, il finit quand même sa vie en exil, mais cette fois-ci en exil volontaire.
En tout cas, il a une notoriété européenne.
Il a une notoriété,
qui dépasse largement les frontières de l'Église romaine.
C'est sûr, une notoriété, enfin, c'est le géographe le plus connu de son temps, ça c'est une certitude. C'est aussi un géographe contesté. Lorsqu'il arrive en Belgique, il est censé être professeur dans une université à Bruxelles, et il y a une partie de la direction et d'autres professeurs qui vont être effrayés par l'arrivée de ce géographe anarchiste, à un moment où des lois en France sont prises pour justement réprimer le mouvement anarchiste, les lois scélérates. Et Élisée Reclus n'est pas autorisée à enseigner dans cette institution. Et du coup, il y a une autre qui va être créée justement pour l'accueillir, d'une certaine façon, l'Université libre de Bruxelles.
Est-ce que ça va expliquer qu'il va tomber ensuite, après sa mort, dans une certaine forme d'oubli quand même, malgré tout ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire une immense notoriété de son vivant, mais quand même ensuite une marginalisation au sein de la géographie quand même?
Au sein de la géographie, ça c'est sûr, parce qu'au même moment se constitue autour d'une figure, Paul Vidal de Lablache, l'école de géographie française, cette fois-ci bien installée à la Sorbonne, avec une chaire, etc. Et Élisée Reclus cette école de géographie française va se détacher finalement de ce savant qui est un petit peu malhabile, un petit peu ingrat à récupérer pour des personnes qui essayent de créer finalement des critères de scientificité très, récurrents par rapport à leurs études. Reclus, lui, on le disait tout à l'heure, encyclopédiste, en même temps voyageur, et puis finalement cet engagement politique très fort, ça, tout ça va être quelque chose de rejeté d'une part, d'une partie de la géographie à l'époque, mais va être ensuite retrouvé dans les années 70.
C'est ça, à partir de quand justement il y a un regain d'intérêt pour Élisée Reclus?
Alors déjà l'intérêt ne disparaît pas tout à fait, et ça c'est notamment grâce au travail de sa sœur, d'une de ses sœurs, pour éditer la fin de ses textes, pour éditer ses lettres, etc. Mais malgré tout, en même temps que le mouvement anarchiste fait complètement décapité par la Première Guerre mondiale, et bien finalement ces idées politiques vont être aussi moins présentes. Mais ces idées également géographiques, il est redécouvert dans les années 70 plutôt par un groupe de géographes qui, autour de la revue Hérodote, un géographe plutôt tiers-mondiste, plutôt ancré à gauche, qui essaye de retrouver aussi des figures finalement inspirantes à un moment où la géographie, on le disait tout à l'heure, est surtout ancrée à droite, ou en tout cas autour d'un mouvement de, plutôt autour du pouvoir. Et donc il y a une sorte de besoin finalement de réassurer des figures comme celle-ci.
Roméo Bourdon, on passe aux questions qui sont là pour vous. Et on va commencer par un message vocal qui est arrivé sur l'application Radio France.
Bonjour, c'est Claude du Pays Basque. Eh bien, je suis super content que vous passiez une émission sur Élysée Reclus. Au moins l'anarchisme sur son côté positif, pour une fois, ça fait du bien d'entendre ça. Je vous remercie beaucoup. Adieu.
Merci beaucoup Claude, et ça nous fait très plaisir que ça vous fasse plaisir. Remontons un petit mot pour répondre à Claude.
Bah déjà, merci beaucoup pour ce message qui effectivement fait plaisir. Effectivement, Claude pointe quelque chose d'assez fréquent, quoi, cette vision très négative quoi, de l'anarchisme qui était venue une sorte d'adjectif pour connoter le désordre, etc. Mmh. Et sans se dire que c'est finalement un courant politique constitué qui a une histoire, qui a des pratiques et surtout une éthique, un mélange de pratiques et d'éthique, de pratiques communaux, enfin plutôt qui tendent vers le communisme, et une éthique très forte autour de la souveraineté individuelle, de la liberté, et tout cela dans un grand mouvement de solidarité finalement. Ouais.
Victoria nous dit « J'ai connu Élisée Reclus grâce aux copains et copines du syndicat anarchiste de la CNT. Peut-on dire que sa pensée se retrouve aujourd'hui dans le mouvement écologiste ?»
Oh bah oui, ça d'une certaine manière, et j'ai l'impression que cette émission, du moins, essaye de le montrer. Alors, comme on le disait tout à l'heure, en tant que précurseur, donc finalement... on ne va pas brandir des étendards pour mettre en évidence une figure qui aurait énervé l'ensemble du mouvement écologiste contemporain. Enfin, ce n'est pas non plus ça qui est dit. Mais on peut dire qu'une partie de ses idéaux, ça c'est sûr, sont très forts. Et notamment dans sa volonté de ne pas hiérarchiser les luttes. On en parlait tout à l'heure par rapport à la cause des femmes et au féminisme. Ça, c'est quelque chose qui énerve aussi les mouvements écologistes contemporains.
Merci pour cette émission d'Yannick. Il se trouve qu'Élisée Reclus est mon ancêtre. Il était le grand-père de ma grand-mère. Voilà. Et il y a plein de gens qui nous écrivent aussi avec des liens, comme Virginie qui nous dit aussi « Je serais contente de votre émission. Élisée Reclus a épousé Pauline Ducosse, la sœur de l'une de mes ancêtres. » Donc on a tous ces arbres généalogiques qui se dessinent. Jean-Christophe nous dit « Merci de parler d'Élisée Reclus et peut-être à la prochaine fois d'évoquer Pierre Kropotkine. » Vous en parliez tout à l'heure. Eh bien, on le fera, parce qu'effectivement, c'est une autre grande figure que vous avez évoquée, qu'on a déjà évoquée d'ailleurs dans l'émission, qui revient souvent. Donc, ça fera l'objet d'une terre au carré. Cachou nous dit « Élisée Reclus demeure une référence majeure dans le milieu de l'écologie libertaire. » Vous le confirmiez tout à l'heure. Et puis, Valérie demande « Qu'est-ce que vous nous conseillez de lire pour mieux découvrir, aborder, commencer à lire l'œuvre d'Élisée Reclus ?» Roméo Bourdon.
C'est une bonne question. C'est un peu pour ça que ce livre a été fait, celui que je présente aujourd'hui, mais il y en a eu quelques autres un petit peu sous la même forme, notamment un qui est paru assez récemment aux éditions du Tripode d'Isabelle Louviot, avec de très belles illustrations, qui aussi présente un rapport assez sensible à Élisée Reclus, ouais. Des textes, etc. Et ensuite, dans les textes en eux-mêmes, il y a un très beau travail qui a été fait par les éditions Héros Limites, qu'il faut vraiment saluer, de réédition de tout un tas d'anthologies, assez simples, très, très, très joliment mises en forme, grâce aussi au travail d'Alexandre Chollier. Et enfin, peut-être on peut citer toutes ces petites maisons d'édition indépendantes, Atelier de création libertaire, Nada, Libertalia, Le Passager clandestin, qui réédite des petits textes plutôt politiques pour le coup d'Élisée Reclus. Et enfin, pour terminer, peut-être le texte le plus réédité de sa part, qui sont Histoire d'un ruisseau, Histoire d'une montagne, notamment aux éditions Libertalia. Ça, c'est un texte qui continue de marquer énormément ses lecteurs.
Donc on a encore de quoi lire aujourd'hui, largement, grâce justement à ces maisons d'édition qui font l'effort de remettre ces textes en avant. Pour terminer, justement, Roméo Bourdon, qu'est-ce qui nous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut nous donner comme point d'appui pour essayer de faire face aux crises écologiques, sociales, politiques que nous traversons? Et Dieu sait s'il y a de quoi faire en ce moment.
Oui, effectivement. Bah,
c'est quoi sa part?
Peut-être son point d'appui, c'est un peu lui-même, sa manière d'affronter finalement une époque qui a été à la fois... par certains aspects merveilleux et par d'autres, sans doute plus nombreux, assez terribles. On parlait de la Commune de Paris, c'est un des événements majeurs de ce moment-là.
On voit ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Hein.
Tout à fait. Oui. Je serais curieux de relire d'ailleurs des pages de Reclus sur, sur cette région du monde. Et ce qui peut finalement nous apporter quelque chose, c'est son découragement parfois et la façon dont il s'est toujours remis à travail, dont il a toujours essayé de poursuivre la lutte malgré tout, parce qu'il n'y a finalement il n'y a rien d'autre à faire que ça.
Merci beaucoup en tout cas Roméo Bondon, c'était très inspirant de pouvoir découvrir ou redécouvrir la figure d'Élisée Reclus et la solidarité terrestre, c'est donc aux passagers clandestins. Merci beaucoup à Lucie Sarfati qui a préparé cette émission aujourd'hui, Tilaï Ravou à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait cette Terre au carré.